Voilà, ce matin, je suis content d'introduire une nouvelle série de messages. On a eu une série assez longue qui s'intitulait « Toi, moi et ma maison ». Je pense qu'il y avait pas mal de pistes pratiques pour les familles aussi, entre autres. Mais je vous invite aussi à réécouter ces messages sur le site internet. Et puis, aujourd'hui, j'aimerais commencer une série qui s'appelle « Vers la maturité », qui est basée sur l'épître de Jacques. J'aime beaucoup l'épître de Jacques parce que c'est une épître qui est très pratique, toujours d'actualité. Il y a un langage simple, clair, sans détour. Il y a des images aussi qui sont assez parlantes. Je vais dire deux mots sur Jacques tout à l'heure, mais il donne des recommandations aussi très claires avec une certaine autorité, un certain leadership. Et puis, il affirme des choses importantes pour notre vie chrétienne. Il donne aussi des solutions. On est content quand il y a des solutions, hein? Non, la Bible est pleine de solutions, sûr. Quelques exemples dans l'épître de Jacques, il va dire par exemple, vous connaissez très bien ce verset, « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Tac, c'est clair, hein, c'est posé, c'est dit quoi. Il dira aussi « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Oh, » Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » dans le but de satisfaire vos passions. Ben voilà, c'est dit, c'est concret, c'est pratique, puis on force d'avouer que c'est vrai, hein. Il a raison. Souvent, c'est pour satisfaire nos passions. Il dit aussi, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. Donc il donne une réponse ici, puis peut-être au passage, il nous dit que la prière est suffisante, la prière est importante. Donc c'est concret, c'est pratique. Alors je ne sais pas si je devrais m'inquiéter particulièrement, moi qui aime cette épître, parce qu'il semblerait que c'est l'épître la moins théologique du Nouveau Testament. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, moins théologique, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que j'aime beaucoup la théologie pratique. Je pense que vous l'avez remarqué. Donc dans cette épître, en fait, Jacques va nous proposer un chemin vers une vie chrétienne mature. Et dès le début, on va être défié, on va être challengé, et je crois que ça, c'est très bon. Parce que comme Eddickson l'a dit, eh ben, il nous aime beaucoup, Jésus, mais il ne veut pas nous laisser comme nous sommes, il veut nous faire avancer, nous faire grandir. Donc avant d'entrer dans le texte, j'aimerais juste vous introduire un tout petit peu le contexte, et puis vous parler de Jacques. Donc plusieurs ont pensé au départ que Jacques, c'était... Donc l'auteur était le frère de Jean, l'un des 12 disciples. Peut-être certains, vous pensez aussi ça, hein, ça peut être assez logique, on voit Jacques, on pense à Jacques le disciple. Mais Jacques est mis à mort sous Hérode Agrippa, hein, on le voit en Actes 12, 1 et 2, là, je ne l'ai pas encore mis là, je vous le lis. « En ce temps-là, le roi Hérode se mit à persécuter quelques-uns des membres de l'Église, il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. » Donc à cause de ce fait historique, eh ben, on sait que ce n'est pas ce Jacques-là, parce qu'il est mort trop tôt pour avoir écrit cette épître. Donc la seconde possibilité, et la plus probable, qui est majoritairement retenue, c'est que l'auteur, c'est Jacques, le frère de Jésus, ou le demi-frère de Jésus. Donc il est fait mention de lui à plusieurs reprises. J'en vais en relever juste deux. En Actes 21, 17 à 18, il est dit... C'est Paul qui parle. « À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, où tous les anciens de l'église se réunirent. » C'est pas Paul qui parle, c'est Luc qui écrit. « Paul se rendit avec nous chez Jacques, donc où les anciens de l'église de Jérusalem se réunirent. » Et puis en Galates 1, 18 et 19, il est dit, « Trois ans plus tard, cette fois c'est Paul qui dit, « Je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, donc de Pierre, et je suis resté 15 jours chez lui, mais je n'ai vu aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. » Donc il y a plusieurs autres mentions, mais ce qu'on sait, c'est que Jacques, le frère de Jésus, était responsable de l'église de Jérusalem, et puis qu'il a probablement écrit cette épître en 49. Voilà, pour ceux qui aiment bien savoir un petit peu les choses, dans 49, c'est a priori le premier livre du Nouveau Testament. Et puis, Jacques va s'adresser aux chrétiens d'origine juive dispersés loin de Jérusalem, et qui se sont dispersés certainement suite à la mort d'Étienne, mort martyr, donc de nouveau un temps de persécution qui a fait partir les chrétiens loin de Jérusalem. Et les salutations en Jacques 1.1 nous donnent cette indication. Il est dit « De la part de Jacques, serviteur ou esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus dispersées, salut !» Voilà comment ça commence. Vous êtes là ? Vous n'êtes pas perdu dans l'histoire ? Vous n'êtes pas encore en l'an 49, c'est bon ? Alors le but de Jacques, c'est encourager ces chrétiens dans leur vie de foi, afin qu'ils tiennent ferme, afin que leur vie chrétienne grandisse en maturité, que ce soit spirituellement ou relationnellement. Donc c'est vraiment à propos encore pour nous aujourd'hui, comme le reste de la parole d'ailleurs. Alors je vous invite à ouvrir donc vos Bibles à Jacques, chapitre 1, les versets 2 à 4, pour ceux qui n'auraient vraiment pas de Bible. Eh bien, je vais quand même afficher le texte à l'écran, parce que je vous aime beaucoup. Puis si vous n'avez vraiment pas de Bible chez vous, eh bien, on peut vous en offrir une avec grand plaisir. Alors, Jacques chapitre 1, depuis le verset 2. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Sachant que l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. Amen. Alors, quand je disais que vous alliez être challengé, ça commence bien, hein ? Donc, premier point, l'épreuve, un sujet de joie. Évidemment, dans le contexte que je viens de vous décrire, ce n'est pas étonnant que Jacques parle d'épreuve. Donc, vous le savez aussi certainement, le mot grec, pyrasmos, qui peut se traduire par épreuve, tentation, mis à l'épreuve, éprouvé. Donc, souvent, ce mot est interchangeable dans le Nouveau Testament. Donc, on parle ici donc, d'épreuve, d'obstacle à la fois, de souffrance, de persécution, de tentation morale aussi. C'est donc assez large. Au verset 12, ce même terme, il est souvent traduit par tentation dans ce contexte-là. Or, heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Donc, heureux celui qui tient bon face à la tentation, qui tient bon dans l'épreuve. J'ai une question tellement importante pour vous. Qui ne vit jamais d'épreuve ? Ok. Philippe, viens, on va t'écouter, témoigner un peu. Non, je ne suis pas trop étonné de la réponse. D'ailleurs, Paul, lui, compare la vie chrétienne à une épreuve sportive, à une course du style marathon, où tout peut arriver. Puis il nous dit de courir de manière à remporter le prix, à aller jusqu'au bout. Ben Jacques, lui, face à l'épreuve, il encourage les chrétiens à changer de point de vue, à saisir une nouvelle perspective. Alors que nous aurions tous tendance, dans nos moments d'épreuve, à tout remettre en question, à abandonner. Souvent, on aimerait juste jeter l'éponge. On a des fois tendance à se morfondre. Parfois, dans les moments d'épreuve, on s'en veut soi-même. Des fois, on se met dans une position de victime aussi, puis on y reste. Des fois, on a envie de s'énerver contre la terre entière. Mais Jacques propose de considérer nos épreuves comme un sujet de joie. Yes ! Merci Jacques, hein ? Quelle bonne idée ! Mais s'il lui est possible de dire ça, c'est qu'il a compris ce que Dieu souhaite faire dans l'épreuve. Son point de vue est différent, car il avait saisi que Dieu veut nous faire grandir. Donc l'épreuve, elle peut être vue positivement à cause de ce qu'elle va induire, à cause de ce qu'elle va produire. Bien sûr, l'épreuve en soi, ça ne nous réjouit pas. Ce n'est pas réjouissant. Mais je peux m'en réjouir, c'est parce que je sais qu'elle va produire quelque chose dans ma vie qui va me faire aller plus loin. Donc c'est une belle perspective. Et on sait aussi que quoi que nous vivions, Dieu a de bonnes choses en réserve pour nous. Amen, vous le savez ça. On le sait. Donc, il y a non seulement la récompense de la couronne de la vie, hein, pour ceux qui tiennent bon face à l'épreuve, face à la tentation, mais Jacques dira aussi, au verset 16 et 17 du chapitre 1, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Ça, c'est ce qui vient de Dieu. Et puis il dit cela après avoir affirmé que Dieu ne nous met pas à l'épreuve, Dieu ne nous tente pas. Ça veut dire que c'est pas, Dieu ne va pas nous séduire par le péché. Oui, les épreuves, les tentations, elles vont permettre de voir la solidité, de tester la solidité de notre foi, de voir où on en est, du coup de renforcer notre foi. Mais il dit que c'est notre nature pécheresse qui est à l'origine des épreuves et des tentations. Donc les épreuves, ce n'est pas un piège de Dieu, les amis. C'est peut-être bien de le rappeler. Dieu ne vous attend pas au contour en vous mettant des épreuves et puis en voulant absolument voir comment vous allez réagir. Ce qui vient du Père des Lumières est bon. Amen. Ça va ? Cependant, pour nous qui sommes ses enfants, nous qui désirons le voir agir dans nos vies, ce que va produire l'épreuve peut être une source de joie, car Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Donc même l'épreuve va nous faire grandir, va nous faire avancer. Donc ce matin, on est invité à considérer nos épreuves comme des sujets de joie. Nous sommes invités à changer de point de vue, parce que Dieu veut nous faire grandir. Il y a une perspective nouvelle derrière votre épreuve. Alors est-ce que grandir spirituellement, être transformé, être changé de caractère, est-ce que ça fait vraiment partie de votre but ou de votre plan de vie? Est-ce que vous avez mis ça dans vos intentions 2018? Ah, j'ai tellement envie de changer mon caractère, ça me ferait tellement de bien. C'est mon but. Pas tellement, hein. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne veut pas de changement, alors l'épreuve ne pourra jamais être perçu positivement. C'est seulement si on accepte que Dieu en fasse un moyen de transformation, de bénédiction et de croissance, que je peux vraiment m'en réjouir. Donc il y a une part où nous, on doit saisir ce que Dieu veut faire et puis on doit l'accepter aussi. On va un petit peu plus loin. Deuxièmement, de l'épreuve à l'endurance. Jacques, il va être même plus précis que ça. Il va dire, mais ce qui est très positif dans l'épreuve, c'est qu'elle va produire la persévérance ou l'endurance, c'est le même mot, même certaines traductions vont dire patience. Votre épreuve va produire l'endurance et c'est tellement positif que Jacques en fait un sujet de joie. Puis dans ses propos, il y a même une sorte de cascade ou de réaction en chaîne. L'épreuve doit être joyeuse parce qu'elle produit l'endurance, mais l'endurance va produire quelque chose à son tour. Je l'ai mis comme ça. L'épreuve conduit à l'endurance qui, à son tour, conduit à la maturité. Pour cela que Jacques nous encourage à considérer nos épreuves comme des sujets de joie. Voilà. Le but derrière tout ça, c'est la maturité. Ça doit nous réjouir dans nos épreuves. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le verset 4. « Or, il faut que l'endurance accomplisse son œuvre pour que vous soyez accomplis et parfaits à tous égards et qu'il ne vous manque rien. » Version seconde 21 va dire, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, puis j'aime bien aussi, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Donc l'endurance, la persévérance, a une tâche à accomplir dans nos vies. Est-ce que vous le saviez ça? Il faut l'endurance, parce qu'elle a quelque chose à produire en nous, qui est important. Jacques, il dit, mais c'est même un sujet de joie. Il faut que l'endurance accomplisse cette tâche. Donc, selon Jacques, c'est l'endurance née de l'épreuve qui nous qualifie, qui nous rend accomplis, parfaits. Littéralement, l'endurance nous rend mûrs, nous rend complets, entiers, adultes, hommes faits, accomplis. C'est tout ça que les termes là regroupés veulent dire. Donc, c'est le moyen par lequel Dieu opère. Au travers de nos épreuves, il travaille notre endurance, notre persévérance, notre résistance. Et là, le mot aussi, hein, le mot grec « hypomeneo » veut dire « rester sous ». Donc la persévérance, la résistance, c'est rester sous l'épreuve, tenir bon, ne pas se détourner, s'écarter du but, endurer. Ça nous fait grandir en maturité. Ça nous fait passer d'un statut d'enfant à un statut d'adulte. Donc vous pouvez garder un cœur frais, un cœur d'enfant. Hein, Jésus a dit « soyez comme des petits enfants ». Ok ? Mais par rapport à la maturité spirituelle, nous sommes vraiment invités à grandir. D'accord ? Donc ça ne veut pas dire que vous devez être sérieux. Ok ? Parce que des fois, on croit que c'est forcément être sérieux comme ça. Non, on peut être, avoir du plaisir à rigoler, à être des fois un peu spontané, de temps en temps insoucieux, des fois saisir les promesses de Dieu, juste simplement, sans se poser 1000 questions, comme un enfant le ferait. Mais nous sommes invités à grandir. Alors, qui est très content ce matin qu'il faille passer par l'épreuve pour arriver à la maturité spirituelle? Ah, il y a quand même quelques contents, hein, ça fait plaisir. Yes, c'est génial, hein? Quelle bonne méthodologie. Bon, mais ce qui est super bien, c'est qu'à la place de dire « Ah, je passe par une terrible épreuve, les amis, si vous saviez », vous pouvez dire « Je suis en pleine croissance !» Je suis en pleine croissance. J'ai un peu mal au genou, hein. Des fois, quand on grandit vite, ça fait mal au genou. J'ai un peu mal au genou, mais je me réjouis. Ah, qu'est-ce que je me réjouis d'être adulte. Alors voilà, vous pouvez dire ça. Puis entre nous, on comprendra ce que ça veut dire, ok? Donc si quelqu'un à la fin du culte vous dit « Je suis en pleine croissance », vous savez que vous pouvez prier pour cette personne. Hein? Ok? Biologiquement ou physiologiquement, vous l'avez remarqué certainement, on devient adulte à travers des crises, à travers des épreuves. On peut déjà juste penser à la naissance et à l'adolescence. On en fait toujours tout un plat de cette adolescence. Je verrai bien quand les miens y seront. On se prépare. J'ai un gros livre sur ma table de nuit. On y travaille. Mais voilà, c'est des bons exemples. On passe à une autre étape au travers de périodes de crise, d'épreuves, de moments instables. C'est des moments en fait d'instabilité où on ne sait plus trop où on est. Et puis après, on arrive à une étape autre. Avec le recul, on réalise certainement que Jacques dit vrai. Mais le défi, ça va être de changer notre point de vue en amont, de pouvoir se réjouir au lieu de s'inquiéter. Donc oui, une épreuve, c'est une épreuve. Hein. C'est dur, ça fait mal, ça rend triste parfois, mais il y a un après. Dieu nous mène plus loin. Donc j'ai besoin d'endurance, j'ai besoin de persévérance pour devenir un chrétien mature et adulte. Est-ce que vous, de temps en temps, vous prenez le temps de regarder dans le rétro ? Important, hein ? RTI, rétro, tête, indicateur, non, c'est pas ça. Non, mais quand on regarde derrière nous, c'est sûr, on grandit. C'est sûr, vous avez grandi. Et vous pouvez certainement regarder et dire, oui, au travers de ces épreuves, c'est là que j'ai le plus grandi. Mais évidemment que pour vivre cette croissance, il faut persévérer dans l'épreuve. Si on ne persévère pas, on n'apprend pas totalement. Si on lâche dans l'épreuve, on va pas voir réellement ce que Dieu aurait voulu nous faire voir. On ne va pas pouvoir atteindre, grandir comme Dieu l'aurait voulu. Et puis parfois on lâche et puis c'est comme ça. Dieu nous relève et puis il nous encourage, puis on repart. Mais c'est bon de persévérer pour pouvoir grandir. Il y a aussi parfois des épreuves, et je pense que plusieurs sont d'accord avec ça, il y a des épreuves longue durée. Il y a les parkings longue durée aussi, mais il y a les épreuves longue durée qui étirent notre foi au maximum. Puis là aussi j'aimerais vous encourager ce matin à persévérer. Si vous croyez en sa parole, croyez qu'il est en train de vous rendre mature. Et gardez cette promesse, on la connaît, mais elle est tellement importante. Aucune épreuve, de nouveau le même mot, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Amen. L'endurance, la persévérance, la résistance dans l'épreuve va nous conduire donc à la maturité qui est vraiment essentielle. C'est mon troisième point. Un auteur chrétien influent, Kenneth Gangel, aux États-Unis, il est maintenant décédé. Il a dit ceci, « Le plus grand problème auquel l'Église d'aujourd'hui est confrontée n'est pas le libéralisme militant, mais le comportement immature des chrétiens à l'intérieur de l'Église. » Ah, ça nous fait un peu grincer les dents, hein. Bon, je ne vais pas demander qui peut dire Amen. Amen. Autant l'épreuve nous mène à la maturité, autant elle révèle aussi notre immaturité. Malheureusement, notre comportement les uns envers les autres, nos réactions, nos prises de position ne sont pas toujours empreintes de maturité. Et c'est dans les moments de conflit, dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve qu'on voit ça. Alors j'aimerais définir la maturité avec vous ce matin. Trois définitions. L'étape, maturité, c'est l'étape dans laquelle se trouve un organisme qui a atteint son plein développement. C'est aussi l'état des fruits quand ils sont mûrs, hein, ça on connaît bien évidemment. Là, les bananes bien brunes. Et puis, c'est aussi la caractéristique d'un écosystème ayant atteint un état d'équilibre. C'est vraiment intéressant, parce que Dieu veut nous amener à notre plein développement. Je le crois, c'est ça son désir. Il désire que, aussi que nous portions du fruit. Si on porte un fruit qui est dur, ce n'est pas porter du fruit, il désire un fruit qui est mûr. Puis il y a aussi cette notion d'équilibre qui est tellement importante. Et la maturité permet d'avoir cet équilibre. Cet équilibre entre le pas du tout ou le trop. Le jamais et le toujours. Entre pas de réaction ou une réaction explosive. Le sans mot ou bien le mot de trop. La maturité donne cet équilibre-là. Et si on reprend l'exemple du fruit, le fruit ne passe pas de l'état immature à l'état mature d'un seul coup. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Il y a un processus qui se fait au fil des saisons. De la même manière, un enfant ne reste pas un enfant. Il y a un processus pour devenir, pour grandir, pour devenir adulte. Mais la réalité, c'est que ça doit se faire. Un enfant ne va pas rester enfant. Il y a une croissance. Lorsque je suis devenu papa, j'ai été assez vite largué avec les biberons. Vous savez, il y a des biberons pour tous les âges. Il y a des tétines de toutes les sortes. Il y a celles qui ressemblent à maman. Et puis ça va en graduant. Puis il y a les tailles. Et puis il y a les vitesses aussi de tétines. Hein. Il y a une goutte, deux gouttes. Il y a celles qui goûtent pas du tout. Ça, c'est pratique hein, quand même. Puis après, on passe un peu du biberon à une bouteille un petit peu plus dure, il y a des poignées, mais là aussi il y a des becs différents. Enfin, c'est assez complexe. Mais à un moment donné, la réalité c'est quoi? C'est que votre enfant il va prendre un verre. Il va passer par encore le stade gobelet entre deux quand même. Mais à un moment donné, il faudra passer au gobelet et il faudra passer au verre. On ne va pas lui garder un biberon toute sa vie. D'accord, vous n'êtes plus au biberon là. Bon, sauf ceux qui goûtent encore un peu. Paul a dit ceci, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. » Spirituellement parlant, on reste parfois enfant, on reste parfois au biberon, alors que Dieu veut nous faire grandir, il veut nous faire atteindre cette stature d'homme fait, accompli, adulte. Donc il y a un processus qui devrait se faire normalement au fil de la vie chrétienne qui est faite d'épreuves. Donc Paul, il accepte volontiers cette réalité de la croissance spirituelle, mais il va reprocher plusieurs fois l'immaturité aussi de certains qui devraient passer du petit lait à de la nourriture solide. Donc ça, on connaît bien cette image. Je vous la redonne quand même, 1 Corinthiens 3, 2. Hein, c'est du lait que je vous ai donné, non de la nourriture solide, car vous ne l'auriez pas supporté. Et même à présent, vous ne le pourriez pas parce que vous vivez encore comme des gens de ce monde. Puis après, ils développent pourquoi finalement ils sont encore immatures. On retrouve aussi cette image dans le livre aux Hébreux, où il est dit « Alors que vous devriez avec le temps être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, par la pratique, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. » Donc juste ce petit mot-là, l'usage, la pratique, c'est intéressant, parce que ça veut dire que c'est par l'expérience, en fait, par le vécu des épreuves. C'est ça qui nous permet d'exercer un discernement et finalement d'arriver à la maturité. Alors je vous donne ce matin 7 marques d'immaturité spirituelle. Je ne vise personne, hein, c'est juste comme ça. C'est la réalité. La première, la jalousie, dispute, rivalité, procès. Vantardise, orgueil. L'impureté, être encore esclave du péché. La conformité au monde. La peur de la souffrance. On ne devrait plus avoir peur de la souffrance. Quand on est mature en Christ, quand on a compris qui est Dieu. La critique, hein, évidemment, le jugement. Et puis, 7e, incapacité à travailler en équipe ou vivre le corps de Christ. Et si je vous donne ces marques, c'est parce que dans la suite de son épître, en fait, Jacques va toucher à plusieurs de ces sujets-là qui appellent à la maturité. Donc, si je résume un tout petit peu, hein, au début, il nous rappelle que ce que nous vivons au quotidien devrait nous réjouir, car Dieu veut nous rendre complets, veut nous rendre matures à travers nos circonstances de vie. Puis, dans la suite, il va développer ces thèmes sur finalement ce qu'est ou ce que n'est pas une vie chrétienne mature. Donc, il parle exactement de ces sujets. Puis, je ne les ai pas forcément pris dans Jacques, là. Hein, c'est des marques réelles d'immaturité spirituelle, vous pouvez les trouver à d'autres endroits dans la parole de Dieu, mais Jacques les reprend exactement en ces termes. Il va parler de la jalousie et de rivalité. Il va parler de l'orgueil. Il va aussi parler finalement du péché et de l'amour du monde. Il va dire des fois, vous avez un cœur partagé. Dieu veut nous rendre matures, un entier, homme fait. Puis il dit, mais vous avez encore un cœur partagé. Il parle de la critique et du jugement. Il y a tout ce chapitre sur la langue. Il parle aussi de la persévérance dans la souffrance. À la fin, il va dire, mais persévérez, vous qui souffrez, parce que Jésus revient. Il parle aussi du besoin des uns des autres, d'aller vers les autres, demander la prière, etc. Donc c'est ce que nous allons développer dans les prochains dimanches. On va poursuivre ce thème, puis on va aborder plusieurs de ces points-là qui sont pratiques pour une vie chrétienne mature. Amen. Ce matin, j'aimerais simplement encore vous dire, osez vous dire, considérez vos épreuves comme un sujet de joie. Le Saint-Esprit, par votre persévérance, va travailler votre cœur avec ce désir de vous amener à la stature parfaite de Christ. Est-ce qu'on peut dire oui ce matin, ensemble, à cette vérité-là ? Jacques ne nous dit pas de comprendre pourquoi ceci ou cela nous arrive. Des fois, on aimerait toujours tout comprendre. Mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui peut en sortir. Que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Je me souviens d'une fois où j'ai vécu une situation un peu difficile. Et puis, c'est vrai, je ne comprenais pas. Mais c'est quelques années plus tard que j'ai compris en fait que cette situation difficile qui m'avait fait un peu mal, qui m'avait un peu étiré, qui m'avait remis en question, mais aussi mis peut-être certains doutes, ben en fait, Dieu m'avait préparé pour quelque chose plus loin. Et quelques années plus tard, j'ai repensé à cette situation, je dis, mais c'est incroyable, je crois que je n'aurais pas pu vivre la situation de cette manière-là si je n'avais pas passé par là avant. Donc, je n'avais pas compris au début. Mais on peut être sûr que Dieu fait tout concourir à notre bien, qui nous amène à la maturité. Donc, ce matin, j'aimerais juste prier avec vous pour un changement de point de vue et pour qu'on puisse accepter que Dieu veut nous faire grandir, qu'on a besoin de grandir, qu'on a besoin de maturité. Tes épreuves, tes luttes, tes échecs sont des opportunités de grandir en maturité. Je vous invite à incliner vos têtes, puis j'aimerais prier avec vous. Père, ce matin, on n'est pas là pour amoindrir les souffrances, les épreuves, la portée de ces épreuves, mais on veut se tourner vers toi avec cette foi que tu es celui qui est capable de nous faire grandir au travers de nos situations de vie. Seigneur, on veut accepter que l'endurance, que la persévérance a une tâche à accomplir dans nos vies. On aimerait tellement passer d'un point A à un point B, d'un claquement de doigts, mais ta parole nous dit que c'est dans ces épreuves qu'on grandit. Seigneur, je prie que ce matin, en regardant à toi, en regardant à tes ressources, en regardant à qui tu es, en regardant à ton amour pour nous, on puisse saisir ces épreuves comme des sujets de joie. Père, je te remercie d'avoir ce désir pour nous de nous faire grandir, de prendre soin de nous pour nous amener à la maturité. Et Seigneur, on veut le désirer ensemble. On veut devenir des chrétiens matures pour que tu puisses te refléter en nous, pour que tu puisses te refléter dans nos relations, pour que tu puisses vraiment manifester, que les gens autour voient qui tu es aussi, parce qu'il y a une maturité qui est là. Père, merci d'accompagner ce matin tous ceux qui sont vraiment en train de grandir fort, comme je disais, qui ont mal aux genoux. Seigneur Jésus, tu les encourages ce matin, tu les encourages à la persévérance. Tu es là, tu ne les abandonnes pas. Que toute la gloire te revienne. Amen.